Vous écoutez
RMC. RMC, 5h-6h30. Charles Matin, Martin Bourdin.
Bonjour à tous et bienvenue sur RMC. Bon réveil, on est le lundi 24 juin et comme tous les jours, évidemment, on vous accompagne en direct tous les matins dans Charles Matin avec Géraldine Demory également. Bonjour Géraldine.
Salut Martin, bonjour à tous.
Ça va, t'as passé un bon week-end?
Bah avec le retour du soleil.
Ça fait du bien,
hier.
Enfin,
bah oui.
Ouais, ça fait du bien, c'est vrai qu'on a respiré.
Un peu beau, un peu chaud.
Ouais, exactement, on a un peu respiré ce week-end.
C'est ça, c'était sympa.
Tu nous diras dans un instant si ça va continuer, si on va pouvoir continuer de profiter du beau temps ou pas.
Pas beaucoup, mais quelques jours.
On va en profiter des prochains jours alors. C'est ce que tu nous diras dans un instant. Puis tiens, on pense aussi également à tous les lycéens, tous nos lycéens ce matin qui passent.
Mais qui passent le bac, ouais, bah oui, c'est le début du grand oral aujourd'hui.
Ouais.
Donc la dernière ligne droite du bac, c'est peut-être l'épreuve la plus stressante.
Ouais, pour, bah ouais, dernier coup de collier, c'est l'épreuve peut-être auquel on est le moins bien préparé tout au long de l'année. Bon courage évidemment à tous ceux qui passent ce grand oral à partir d'aujourd'hui. Peut-être que c'est le cas de vos enfants hein, qui sont peut-être déjà réveillés en train de relire les dernières fiches. Jamais forcément une bonne idée ça de réviser au dernier
ouais,
moment.
Ça rassure
ouais.
Bon. Oui.
Allez, bon en tout cas, appelez-nous hein, si vous voulez leur souhaiter bon courage aux lycéens, à vos enfants, on va essayer de leur envoyer des bonnes ondes ce matin. Appelez-nous également au 3216. Bah pour réagir évidemment à l'actualité comme tous les matins, aujourd'hui on revient sur une tribune qui fait du bruit, celle des cadres de l'éducation nationale, des directeurs d'école, des proviseurs, des inspecteurs qui sortent de leur devoir de réserve pour dire qu'ils n'obéiront pas aux directives d'un éventuel futur gouvernement d'extrême droite si ce gouvernement s'oppose aux valeurs de la République.
Ouais, une pétition qui accompagne la tribune a même déjà reçu 2000 signatures et cette désobéissance elle pourrait bien s'étendre à d'autres secteurs de la fonction publique comme l'hôpital ou la justice. Bon, il faut le rappeler, les fonctionnaires peuvent désobéir à condition que la directive menace l'intérêt public. Mais c'est une notion un petit peu floue. Hein. Ce sera à la fin à un juge de trancher cette histoire de menace de l'intérêt public et qu'on ne sait pas forcément très bien ce que ça veut dire.
Venez nous dire hein, ce matin si vous comprenez ce mouvement, cet appel à la désobéissance en cas de gouvernement d'extrême droite. Je sais qu'il y a pas mal de profs qui nous écoutent le matin. Venez nous dire si vous seriez prêt à désobéir en cas de victoire du Rassemblement National ou au contraire, est-ce que ça vous choque qu'un fonctionnaire puisse refuser d'appliquer les directives? On vous attend si vous travaillez dans un tribunal également. Est-ce que c'est anodin finalement d'avoir un gouvernement, un ministre de la Justice, un ministre de l'Éducation avec une étiquette Rassemblement National? Vous connaissez le chemin pour participer au débat, le 3216 ou Direct Studio sur l'appli RMC. On en parle tous ensemble dans un instant. Bon lundi sur RMC, il est 5h.
RMC, Charles Matin.
Et à 5h, toute l'info en direct, c'est avec Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour à tous. Une lettre d'Emmanuel Macron dans les journaux ce matin. Le président promet de profonds changements en cas de victoire de son camp aux législatives. C'est la dernière semaine de campagne là qui démarre. La réouverture de l'A13 en fin de journée en région parisienne, 2 mois qu'elle est en partie fermée. Les usagers attendent ça avec impatience. Et puis l'Euro de foot, match nul in extremis de l'Allemagne partout contre la Suisse hier soir. Kylian Mbappé s'entraîne avec un nouveau masque.
Emmanuel Macron s'adresse donc à nouveau aux Français.
Oui, cette fois dans une lettre publiée ce matin dans la presse régionale au premier jour de la dernière semaine de campagne des législatives. Premier tour dimanche, Emmanuel Macron promet d'agir en tant que président jusqu'en mai 2027. Façon de répondre en fait à Marine Le Pen qui lui suggérait de démissionner en cas de défaite aux législatives. Il assure, Emmanuel Macron, qu'il y aura du changement si son camp arrive en tête. Alfred Orange, première réaction tient à votre micro RMC.
Oui, des électeurs sceptiques déjà sur les promesses lancées par le président de la République après 7 années de mandat.
Je pense que c'est fini, cette époque-là est passée, je crois. Le temps des promesses pour lui, on n'en est plus là le concernant.
Dans cette lettre, le président décrit son parti comme la troisième voie, la seule capable, dit-il, de faire barrage aux extrêmes, mais Paola n'y croit pas.
Disons qu'il a eu beaucoup d'années, je pense, pour comprendre ce que voulaient les Français. Aujourd'hui, il faut changer, c'est le moment.
Même chez ses supporters, cet écrit n'imprime pas.
C'est trop tard.
Pourtant, Emmanuel Macron assure que la manière de gouverner doit changer, pas de quoi convaincre Lisa, déçue par la manière de faire de son ancien champion.
Là, franchement, moi, j'ai plus d'espoir. Il y a eu trop de déceptions par rapport aux retraites. Honnêtement, moi, je suis plus en accord.
Pour le politologue Bruno Cotrès, le chef de l'État tente surtout de rester visible par tous les moyens pour peser sur ces élections législatives.
On voit un chef de l'État qui ne renonce pas à être le centre de gravité de son camp politique et voire être le centre de gravité de la vie politique française.
Et si son camp venait à perdre, Emmanuel Macron promet d'agir jusqu'en mai 2027, date de fin de son mandat présidentiel.
Alors le dernier sondage est là pour BFM TV et la tribune dimanche donne le RN en tête des intentions de vote, 36%. le nouveau Front populaire à 27% et les macronistes à seulement 20%. La gauche qui continue de se déchirer autour du nom d'un futur potentiel Premier ministre, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a relancé le sujet en se positionnant samedi. Et alors il y a des réactions en cascade depuis Cyprien Pezeril.
Un communiqué de Fabien Roussel pour dire non à Jean-Luc Mélenchon à Matignon, François Hollande qui lui demande de se taire, ou encore les écologistes qui appellent à choisir un Premier ministre fédérateur. Tout le week-end, les alliés du nouveau Front populaire se sont écharpés sur la question du chef du gouvernement, qu'ils ont, contrairement au RN et aux macronistes, choisi d'évacuer. Alors ce matin, la réunion quotidienne des grands chefs de l'Alliance sera tendue et la question ne sera pas évacuée. Le Front populaire, c'est un espace de rapport de force, menace un mélenchoniste qui prévient qu'il n'est pas hors jeu. Mais Jean-Luc Mélenchon est un repoussoir. S'il voulait sincèrement la victoire, il ne se mettrait pas en première ligne, répond un de ses opposants. L'insoumis qui semble surtout chercher à conserver le leadership à gauche, quitte à semer la pagaille. Il y a à peine une semaine, il affirmait pourtant « Je ne veux en aucune façon être un problème ».
Après les macronistes et la gauche, c'est le RN qui dévoilera ce matin, 11h, son programme en cas de victoire législative. Il est attendu, après avoir renoncé dans l'immédiat à abroger la réforme des retraites et à supprimer la TVA sur les produits de première nécessité. Et alors des voix s'élèvent et alertent sur une possible victoire du Rassemblement National. Des cadres de l'éducation nationale assurent qu'ils n'obéiront pas, on vient d'en parler, ils n'obéiront pas aux directives d'un gouvernement d'extrême droite dans une tribune.
Venez nous dire si vous comprenez cette volonté de désobéir aux éventuelles directives d'un gouvernement d'extrême droite. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est responsable ou non? On vous attend, notamment si vous êtes professeur, comment ça va se passer? Comment vous envisagez de réagir si jamais l'extrême droite et le Rassemblement National remportent les élections législatives? Venez nous le dire, on en débat tous ensemble ce matin au 32-16 et sur l'appli RMC, rubrique direct studio.
Alerte et tribune aussi de 170 diplomates et agents du Quai d'Orsay dans le journal Le Monde. Et même le chancelier allemand Olaf Scholz prend la parole à la télé allemande.
Je suis toujours prudent quand je dois donner mon avis sur le résultat d'une élection avant qu'elle ait lieu. Cela vaut pour les élections dans notre pays et encore plus à l'étranger. Je suis préoccupé par les élections en France et j'espère que les partis qui ne sont pas celui de Marine Le Pen, pour le dire comme ça, gagneront les élections. Mais c'est aux Françaises et aux Français de décider.
Il y avait une manifestation féministe, il y en avait partout en France d'ailleurs hier, pour alerter là aussi contre une victoire de l'extrême droite. Entre 13 000 et 75 000 personnes dans les rues à Paris selon les sources. Des rassemblements également hier à Strasbourg et à Courbevoie, plus d'une semaine après le viol d'une jeune fille de 12 ans parce que juive. On en a beaucoup parlé la semaine dernière dans cette ville de banlieue parisienne. L'avocate de la petite fille et de sa famille, Maître Muriel Ouknine Melki, qui sera invité tout à l'heure de RMC à 8h10, était présente hier à Courbevoie.
C'est une expédition punitive parce qu'elle avait caché son appartenance à la religion juive à son camarade. L'objet même de ce guet-apens était de lui faire payer le fait qu'en étant petite fille juive, elle était forcément une petite fille qui soutenait Israël, qui soutenait le génocide dont ses agresseurs accusaient Israël. Ce sont tous les mots qui ont été prononcés pendant les faits par ses agresseurs. C'est la réalité terrible. Une petite fille en France a été violée, battue, séquestrée, injuriée. Parce que juive.
L'information de la soirée, c'est la mort du père Bernard Prénat, l'ex-prêtre condamné pour agression sexuelle sur mineur. Il est décédé hier, il était incarcéré depuis 2020 et sous bracelet électronique depuis quelques semaines pour cause de santé fragile. La situation se tend à nouveau en Nouvelle-Calédonie. Plusieurs bâtiments dans un commissariat municipal et une mairie ont été incendiés la nuit dernière, marqués par de nombreux affrontements entre indépendantistes et forces de l'ordre dans la région de Nouméa, dans la foulée de la mise en examen et du placement en détention provisoire en métropole de 7 militants liés à l'insurrection à l'origine des émeutes. Nouvelles épreuves du bac à partir de ce matin, c'est le début du grand oral qui compte pour 10% dans la note finale, un sujet sur une spécialité choisie par l'élève. Mais l'association des profs de sciences économiques et sociales appelle à la grève pour dénoncer un manque de préparation de ces épreuves. Le bout du tunnel, on le disait, tiens, en région parisienne, c'est en fin d'après-midi que va rouvrir l'autoroute A13 dans l'ouest parisien, en partie fermée depuis 2 mois pour cause de fissures qui sont apparues sur la chaussée. Soulagement pour les riverains et bien sûr les automobilistes. Johanna Chabas.
Entre les routes barrées et les déviations, les automobilistes sont impatients de retrouver l'A13.
Heureusement que ça rouvre, il y en a marre. Je mettais une heure plutôt que 30 minutes pour retourner chez moi.
On est obligé de prendre des petites départementales et on perd un temps fou. Hier, on a fait une heure de trajet en plus.
Soulagés aussi sont les commerçants, car avec la 13 bloquée, une partie des 115 000 poids lourds et voitures qui l'empruntent quotidiennement sont obligés de passer par le centre-ville de Saint-Cloud. Patricia et Geneviève sont fleuristes.
On sait avant qu'il va y avoir un camion qui arrive. Rien que par les vibrations, vous avez ça secoue, on sait qu'il y a un gros camion qui arrive.
Les clients vont pouvoir revenir sans être à pas vouloir passer, je ne vais pas pouvoir rentrer dans le centre, tout le monde va être content que la vie reprenne normalement.
Mais la réouverture fait aussi des déçus. Comme Elisa, certains cyclistes profitaient de l'autoroute vide pour y pédaler.
Ça me rattriste un peu, en fait. C'était assez agréable. Enfin, il y a de la place. On était bien, hein. C'était fermé.
Des renards aussi avaient pris possession des lieux. Ils devront laisser place aux voitures dès ce soir.
Et puis je vous propose de prendre des nouvelles des Bleus à l'Euro de foot. On est à la veille du dernier match de poule pour la France contre la Pologne. Les Bleus avec Kylian Mbappé, son nouveau masque à l'entraînement, Arthur Perrault.
Oui, Kylian Mbappé s'est essayé avec un nouveau masque noir avec son nom et numéro inscrit. Et dès son arrivée sur la pelouse, il s'est fait chambrer par Antoine Griezmann qui fredonnait la chanson de Zorro. Mais sur ses 10 premiers tirs à l'entraînement, aucun but inscrit de Mbappé. Le joueur du Real Madrid a demandé à changer de masque avant de totalement le retirer pour un jeu en fin de séance dans la bonne ambiance. Un entraînement léger, surtout fait pour les remplaçants du dernier match contre les Pays-Bas. L'attaquant Bradley Barcola n'a pas vraiment rassuré lui non plus, multipliant les frappes ratées face aux gardiens. La tendance reste à plusieurs changements pour la rencontre demain soir face à la Pologne. Reste à savoir si Kylian Mbappé fera partie des heureux élus.
Bon, et puis l'Allemagne termine première de son groupe, mais alors les Allemands ont eu très très chaud hier en égalisant dans les arrêts de jeu. Deux minutes après la fin du temps réglementaire, un partout, le match nul face à la Suisse hier soir pour les Allemands.
Ça valait le coup de rester debout jusqu'à la fin des matchs hier, parce que dans le même groupe, il y a la Hongrie qui a battu l'Écosse, je crois, à 90 plus 10 minutes d'arrêt de jeu, quelque chose comme ça.
En fait, ça se passe à la fin, quoi.
Ça sert à rien de regarder tout le reste du match. Bon, regardez juste les arrêts de jeu de 7 euros. Merci beaucoup, Quentin. On te retrouve évidemment à 6h pour un nouveau journal. On le disait, on débat ce matin de ces appels à la désobéissance lancés notamment par des cadres de l'éducation nationale en cas de victoire de Rassemblement National aux prochaines législatives. Le débat est bien lancé, Géraldine, sur Direct Studio.
Oh oui, ça vous divise, hein. Mathieu qui nous explique qu'il est fonctionnaire territorial et qu'il a un devoir de réserve, donc il va continuer à travailler comme d'habitude. Ce sera un vote démocratique, donc peu importe l'issue, ce sont les Français qui choisissent. Rémi, lui, n'est pas d'accord du tout. Ils ont raison de désobéir pour lui. Et pour ceux qui voudraient les virer, n'oubliez pas qu'ils sont déjà en sous-nombre. Effectivement, c'est à noter. David ne comprend pas cet esprit de désobéissance en France. On est dans un pays démocratique. Il faut donc respecter le choix de la majorité. Moi, quand je ne suis pas d'accord avec le candidat qui a gagné, j'arrête pas de travailler. J'attends les élections qui suivent.
Et c'est une solution, venez nous dire, hein, si vous êtes d'accord avec ce que vous venez d'entendre, venez nous dire comment vous réagissez à cet appel à la désobéissance. Est-ce que vous le comprenez? Comment ça se passe pour vous, tiens, si vous êtes vous-même prof, comment vous envisagez les choses si jamais le Rassemblement National devient le parti majoritaire et forme un gouvernement? Est-ce que vous allez suivre ces appels à la désobéissance? Est-ce que au contraire, vous allez remplir votre devoir de réserve? Venez nous expliquer comment ça va se passer pour vous. Vous nous appelez au 3216 et vous laissez vos messages sur l'appli RMC rubrique Direct Studio. On continue le débat toute la matinée ensemble sur RMC 5h11.
RMC, Charles Matin, êtes-vous bien réveillé?
Et à 5h11, comme tous les matins, on joue avec l'actu. On vous pose une question qui est dans l'actu et vous devez y répondre pour gagner de jolis cadeaux.
Quelle épreuve du bac commence aujourd'hui pour les lycéens?
On en a parlé dans le journal de Quentin Vinet. On en a parlé également en introduction de cette émission.
C'est l'épreuve la plus stressante, hein.
Exactement. Alors, on peut vous donner quelques indices. Il y a eu l'épreuve de philo qui est passée, l'épreuve de français qui est passée. Les épreuves de spécialité également.
Pour devoir donner de la voix.
Exactement. Voilà. Bon. Vous avez compris, on arrête là, on en a assez donné. La réponse, vous l'avez forcément trouvée. Donc, vous l'avez déjà entendue également sur RMC depuis ce matin. Vous avez donc aucune excuse pour ne pas envoyer le mot actu par SMS au 732-16. Actu par SMS au 732-16. Pour gagner quoi, Géraldine?
Un très joli radio réveil de la marque Muse pour vous réveiller avec RMC tous les matins.
Quelle épreuve du bac commence aujourd'hui pour les lycéens? Vous avez la réponse. Vous envoyez le mot actu par SMS au 732-16. Bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Vous êtes bien réveillés sur RMC avec Muse. Toute une collection d'enceintes portables, de radios, casques, platines vinyles et plus encore à découvrir sur muse-europe.com.
RMC Police Justice.
Votre rendez-vous à RMC PJ comme tous les matins avec aujourd'hui Lucille Pascanet du service police-justice. Bonjour Lucille.
Bonjour Martin, bonjour Géraldine, bonjour à tous.
Bonjour.
Ce matin, Lucille, vous nous racontez l'interpellation de 13 membres d'un équipage d'un yacht en Grèce après un feu de forêt causé par des feux d'artifice.
Oui, pyrotechnicien, ça ne s'improvise pas. Alors, ont-ils fait une erreur technique ou bien seulement voulu faire la fête sans se préoccuper des conséquences? Tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est que ces 13 personnes se trouvaient sur le super yacht Perséphone vendredi en tant que membre d'équipage. À ce moment-là, le yacht se trouve au large de la touristique île d'Hydra en Grèce, à proximité de la seule forêt de pins du pays. Un endroit très difficile d'accès, sans route praticable. Les températures dépassent les 40 degrés pour la première fois de l'année et les bulletins météo soulignent le risque très élevé de feux de forêt. Ce qui n'a pas empêché les membres de l'équipage de ce bateau de luxe de tirer leur feu d'artifice, selon le capitaine d'un navire voisin, témoin de la scène. Et les tirs déclenchent, vous vous en doutiez, un feu qui dévore cette forêt unique. Au grand désespoir des locaux et des internautes qui ont réagi au post des pompiers sur Facebook, ils s'insurgeaient, photos et vidéos de l'île en flammes à l'appui. Le maire de l'île d'Hydra s'est indigné contre l'irresponsabilité des membres de l'équipage. Il a affirmé que la municipalité allait se porter partie civile à la fin de la procédure. Finalement, 30 hectares de forêt sont partis en fumée. Selon les médias grecs, les 13 suspects ont été arrêtés samedi et en audition, ils ont tous nié les faits. Ils devraient être jugés après-demain et ils risquent gros. En Grèce, les suspects d'incendie criminel peuvent encourir jusqu'à 20 ans de prison et une amende de 200 000 euros.
Récit signé Lucille Pascanet du service police-justice d'RMC.
À suivre dans Charles Matin sur RMC.
Nous n'obéirons pas à la promesse des cadres de l'éducation nationale dans une tribune publiée il y a 10 jours en cas de victoire du Rassemblement National. Ces fonctionnaires refuseront donc d'appliquer tout ordre contraire aux valeurs républicaines. Le secteur de la justice, le secteur de la santé pourrait bien également rejoindre ce mouvement de désobéissance. Est-ce que ça vous choque? On sait que les fonctionnaires sont soumis à un devoir de réserve et d'obéissance. Vous êtes peut-être vous-même fonctionnaire dans l'éducation nationale, dans la justice, au sein des ministères sociaux. Venez nous raconter ce matin quel est l'état d'esprit autour de vous au travail. Est-ce que vous partagez ou non cette idée de désobéissance? Venez nous expliquer pourquoi au 32-16 et sur l'appli RMC, onglet Direct Studio. Avant cela, c'est RMC s'engage avec vous. Anna Jojard vient en aide à une petite entreprise du nord de la France qui a dû changer de nom à cause des Jeux Olympiques. À tout de suite.
RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin. Martin Bourdin.
Bon réveil à tous sur RMC 5h16.
Vous avez un problème? RMC a la solution. RMC s'engage avec vous.
RMC s'engage avec vous grâce à Anna Jojard ce matin. Bonjour Anna.
Bonjour Martin, bonjour Géraldine.
Anna, aujourd'hui on part dans le Nord avec vous pour tenter de sauver une petite entreprise.
Et oui, cette entreprise, elle s'appelle les Olympiades. Elle vend du textile et du matériel sportif aux clubs et entreprises de la région des Hauts-de-France. 11 salariés travaillent dans cette petite entreprise qui existe depuis 30 ans. Alors en début d'année, Guillaume, le patron, reçoit un courrier urgent du comité des Jeux Olympiques. L'organisme le met en demeure de changer de nom sous peine de poursuite. Il n'aurait pas le droit d'utiliser la dénomination les Olympiades.
On ne profite nullement de la notoriété des Jeux Olympiques. Et évidemment, dans l'autre sens, on ne leur fait aucun tort non plus. On travaille que sur la région des Hauts-de-France, donc on est vraiment une toute petite structure. Pourquoi on vient nous embêter aujourd'hui? Pourquoi on nous a laissé faire pendant plus de 30 ans? Et pourquoi on est dans cette situation-là?
Voilà, Guillaume est sonné face à l'ampleur de ce que lui demandent les JO.
Effacer toutes les traces de ce qui existe aujourd'hui, hein, donc ça passe par nos enseignes, notre site internet, nos véhicules, tout ce qui est logoté Olympiade. Ça représente sans doute à peu près 60 000 euros de frais pour nous. On sera en difficulté, donc ce que je souhaite, c'est de la clémence et de la souplesse pour trouver une issue qui soit favorable pour tout le monde.
Et ce n'est pas tout. Hein. Le comité lui réclame aussi 4 500 euros de compensation de préjudice et de frais d'avocat engagés.
Tout ça pour une petite entreprise de 11 salariés, ça paraît assez dingue. Vous avez tenté, Anna, de jouer les médiateurs. Évidemment, est-ce que ça a marché?
On va commencer par préciser ceci. Les JO sont dans leur bon droit. Hein. Ça, c'est vrai. L'article L141-5 du Code du sport le stipule bien. Le comité est propriétaire de l'appellation Olympiade. D'ailleurs, un service entier est chargé de la surveillance de ses propriétés intellectuelles. C'est comme ça que la petite entreprise de Guillaume est apparu sur les radars.
Donc il n'y a aucune marge de manœuvre?
Évidemment, celle du bon sens. Il est évident qu'une PME de 11 salariés dans le nord de la France ne fait pas de concurrence directe aux JO.
Ça paraît logique.
C'est ça qu'on a tenté de faire valoir. Jusqu'ici, le comité demandait à Guillaume de tout changer avant la fin de la semaine. Et bien finalement, suite à notre intervention, l'entreprise a 8 mois pour se mettre en règle, changer de nom et changer de logo. Le comité olympique renonce également aux 4 500 euros de dommages qu'il réclamait.
Ça va faire, j'imagine, plaisir à Guillaume. Au moins, il a un peu plus de temps pour s'organiser. Merci beaucoup Anna, on rappelle l'adresse pour contacter toute l'équipe d'RMC s'engage avec vous, RMC avec vous @rmc.fr. Anna,
Je crois que c'est un jour particulier aujourd'hui, 24 juin.
Ah,
bah oui. Joyeux anniversaire. Bon, alors un réveil à 1h du mat pour un anniversaire, c'est pas forcément.
Et comme ça, on a les proms.
Mais oui, oui. Exactement.
Et puis comme ça, bah voilà, c'est l'occasion de passer du bon temps avec vous.
Exactement. Bah, ça nous fait plaisir de t'avoir souhaité un joyeux anniversaire aujourd'hui, Anna. Joyeux anniversaire à toi et profite bien évidemment de la journée. Merci beaucoup. RMC 5h19.
RMC, à vous de nous dire.
Les fonctionnaires doivent-ils désobéir en cas de victoire du Rassemblement national? C'est ce que souhaitent faire certains cadres de l'éducation nationale. Ils disent qu'ils n'appliqueront pas des directives contraires aux valeurs de la République, d'après eux.
Oui, dans les faits, les fonctionnaires peuvent désobéir, mais à condition que l'ordre qu'on leur donne menace gravement l'intérêt public. Alors, menace gravement l'intérêt public, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça va rester à définir, hein. Ce sera au juge de trancher.
Oui, puisqu'ils sont soumis à un devoir de réserve, normalement, tout ce corps enseignant. Rester discret sur leurs opinions personnelles, mais ils nous appellent quand même pour en faire part. Ce matin, au 32-16, on est avec deux professeurs, un prof de maths qui nous appelle de Bourg-en-Bresse, Vincent, et Christophe, également prof d'histoire-géo, qui nous appelle des Pyrénées-Orientales. On va commencer par Vincent. Bonjour Vincent.
Bonjour Martin et bonjour Géraldine.
Bonjour Vincent.
Ça va Vincent ce matin?
Ça va, mais un peu angoissé par les futures élections.
Par le contexte politique. Alors justement, on en parle ce matin. Vous avez certainement vu cet appel à la désobéissance lancé par certains cadres de l'éducation. Vous êtes donc enseignant en collège. Est-ce que vous commencez à y réfléchir un peu? Comment ça va se passer si le 8 juillet, on a un gouvernement étiqueté Rassemblement National?
Alors le problème, c'est que le 8 juillet, nous, on a 2 mois de vacances. Enfin, pas 2 mois, mais...
Oui.
Donc je vois pas comment on peut les corrections du brevet sont passées. Donc parce que ça aurait été avant les corrections du brevet, à la limite il y aurait pu avoir une rébellion à ce niveau-là. Mais bon, ça aurait pénalisé les élèves.
Mais à la rentrée.
À la rentrée, oui. Bah il faut voir. On va encore changer le ministre de l'Éducation, d'ailleurs, c'est sûr. Mmh. Donc ça commence à me gonfler pour parler poliment.
Ouais, ça fait beaucoup.
Parce que ça va faire le 4e ou 5e en très peu de temps. Et puis le fait que ça change toutes les années, enfin bon, ça c'est assez insupportable. Mais et puis effectivement, mais bon, si tout le monde s'y met, si les inspecteurs, si effectivement ça pourra pas aller. Quoi.
Mais est-ce que vous imaginez désobéir si jamais des directives qui sont passées sont contraires aux valeurs que promeut la République?
Alors moi, pour parler honnêtement, j'ai jamais fait un jour de grève. Mmh. Mais là, si vraiment c'est le bordel, c'est-à-dire que si les inspecteurs qui nous dirigent sont contre, si tous les profs font grève, je serais bien obligé de suivre le mouvement.
Qu'est-ce qui vous inquiète dans le programme du Rassemblement National?
Moi, à mon avis, ils sont très incompétents en éducation nationale, en éducation. Hein, mais bon, après, je ne vois pas qui pourrait nommer ministre de l'Éducation déjà.
On va en parler, Vincent, restez avec nous, on va en discuter avec Christophe également, qui nous appelle des Pyrénées-Orientales. Bonjour Christophe.
Et bonjour.
Prof d'histoire géo, c'est ça?
Ça, oui.
Bon, quand vous entendez Vincent, vous entendez l'anxiété de Vincent face à ces élections et à la perspective d'un éventuel gouvernement d'extrême droite, comment vous réagissez-vous quand vous voyez ces appels à la désobéissance? Est-ce que vous vous dites, oui, c'est une bonne idée, on va les suivre, ou pas du tout?
Non, c'est ridicule. C'est ridicule. Déjà, il y a 1 300 000 personnels de l'éducation nationale, donc quelques centaines qui pétitionnent. Ça leur fait du bien.
2 000 signatures sur la pétition. Ouais, pas forcément
Ils se prennent pour Jean Moulin, qui était préfet de Chartres en 1940 et qui a résisté à l'occupant. C'est ridicule. Aujourd'hui, on a une constitution, on a des cadres. On a des valeurs qui sont respectées. Il n'y a vraiment pas de raison de s'affoler, quoi. Ce sont des gens qui seront sortis des urnes, qui seront élus, qui vont devoir adopter un gouvernement d'union nationale, d'ailleurs, puisque tout seuls, ils ne pourront pas gouverner. Il y aura peut-être un ministre de l'Éducation nationale qui sera issu des rangs LR et qui sera aussi compétent qu'il avait été à l'époque de Chirac ou de Sarkozy.
Christophe, vous êtes prof d'histoire-géographie. L'une des inquiétudes des personnes qui ont lancé la pétition et qui ont signé cette tribune, c'est par exemple de voir le Rassemblement national modifier les programmes d'histoire-géographie pour servir certaines thèses, certaines théories. Est-ce que cette crainte, elle existe ou pas?
Mais non, elle n'existe pas. Mais non. De toute façon, il y a des règles quand même. On n'annonce pas n'importe quoi. Et ils savent très bien que ça sera pas appliqué. On n'est plus dans le totalitarisme des années 30. Mais c'est ridicule. Regardez l'Italie, comment ça se passe. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Un gouvernement d'extrême droite, il y en a un en Finlande, il y en a un aux Pays-Bas qui collabore en partie avec d'autres partis, etc. C'est pas comme ça que ça se passe. Ça se passe plus comme ça. C'est n'importe quoi, franchement. C'est ridicule. Ils vont pas nous obliger. D'abord, le programme déjà, il est appliqué en partie. On a une forme de liberté pédagogique et quoi qu'il en soit, on transmet. Notre rôle à nous, c'est de transmettre les valeurs de la République. C'est pas les valeurs de la République, mais elles existent quand même et elles seront appliquées quoi qu'il arrive.
Et Vincent, vous inquiétez, vous n'êtes pas du tout du même avis que Christophe.
Ouais.
Ah, on a perdu Vincent. On va essayer de le retrouver. Christophe, on voit d'autres corps de métier qui appellent, qui s'inquiètent également. Il y a les magistrats, il y a le secteur de la santé également qui s'inquiète d'une éventuelle victoire du Rassemblement national. Est-ce que c'est anodin? Un gouvernement de Rassemblement National, est-ce que c'est anodin? Est-ce qu'il y a quelque chose un peu différent par rapport à un gouvernement comme on a pu connaître jusqu'à présent en France? Est-ce qu'avoir un gouvernement d'extrême droite, ça change un peu la donne quand même?
Oui, clairement, ça change la donne. Moi, je le verrai surtout sur un plan économique, quoi. Parce que là, par contre, autant celui-ci que celui du Front du Nouveau Front Populaire, qui est encore pire, à mon avis, c'est un signal d'alerte très, très négatif sur le plan économique. Quand on sait que les fonctionnaires sont quand même payés parce qu'on s'endette, parce qu'on emprunte chaque année 250 milliards d'euros, sinon on n'est pas payé, les retraites ne sont pas versées. Là, à ce moment-là, effectivement, il y aura des... D'ailleurs, le Rassemblement National a commencé à reculer certaines réformes, d'ailleurs déjà, parce qu'il sait très bien qu'elles ne seront pas appliquées. Le nouveau Front de Gauche, lui, ne recule pas, mais il sait aussi très bien que ça ne sera pas appliqué, donc en plus, il manque effrontément. Donc, ce sont des choses qui sont plus importantes. Quant à ce qui concerne le régalien, entre guillemets, ben, les Français demandent davantage de sécurité, davantage au moins de clémence, plus de sanctions. Écoutez, ça fait un moment qu'ils demandent, personne ne leur dit qu'ils ont raison, tout le monde les accuse d'être des extrémistes. Bien, au bout d'un moment, les extrémistes, bien, c'est les Français comme tous les autres qui votent et qui en ont marre. Voilà, c'est tout.
Christophe, restez avec nous, on a retrouvé Vincent. Vincent, quand vous entendez Christophe discuter, comment vous réagissez? Vous dites il a raison, ça vous rassure un peu ou pas du tout?
Oui, là, ce qu'il a dit sur l'économie, ça me paraît effectivement assez juste. Ouais, c'est sûr, c'est inquiétant, mais derrière, effectivement, moi, je suis aussi. J'ai peur aussi que ce soit l'extrême gauche qui prenne le pouvoir parce que ils sont.
Mais c'est juste pour revenir au débat. Si c'est un gouvernement de Rassemblement National. Vous, votre solution, c'est quoi? C'est désobéir, démissionner, ou parce qu'on aura un ministre Rassemblement National, ou pas?
Ah non, je ne vais pas démissionner, c'est mon métier. On verra comment ça se passe, mais effectivement, comme dit, je suis assez d'accord avec l'auditeur, ils pourront pas non plus n'importe quoi. Et puis moi, dans ma matière, de toute manière, les maths, c'est pas une matière politique.
Oui, a priori, les maths, c'est 1 plus 1 fera toujours 2, donc a priori, ça changera pas à ce niveau-là. Merci beaucoup, Vincent, merci beaucoup, Christophe, d'avoir participé au débat. On continue évidemment d'en parler tous ensemble ce matin. Est-ce que vous comprenez ces appels à la désobéissance lancés dans l'éducation nationale, lancés notamment par des cadres de l'éducation nationale? Vous nous appelez au 3216 et vous laissez vos messages sur l'appli RMC, rubrique direct studio.
RMC, Charles Matin.
Dans un instant, journal de 5h30 avec à la une cette femme grièvement blessée par 3 loups hier au zoo de Thoiry. On aura aussi dans un petit quart d'heure maintenant toute la bande de Charles Matin en studio. Et puis ta solution conso, tout de suite Géraldine.
Je vous prépare aux galères que vous aurez peut-être en vacances.
RMC, 5h-6h30, Charles Matin, Martin Bourdin.
Bon réveil à tous, 5h28 sur RMC.
RMC,
la solution conso.
Et on commence à sentir un petit air d'été dans le ciel. Enfin, ça y est, Géraldine, pour certains, c'est même bientôt les vacances. On espère évidemment que tout se passera bien. Bon, c'est pas toujours le cas. Et si jamais ça se passe pas bien, bah, t'as quelques conseils à nous donner ce matin.
Bah oui, tiens, imaginez, vous avez du retard, que ce soit à cause des bouchons ou à cause d'un problème de vol. Premier réflexe, prévient votre hébergement. Parce que si vous ne vous présentez pas le jour ou à l'heure convenue, eh bah, l'hôtelier, par exemple, peut tout à fait relouer la chambre. Et si vous arrivez enfin, il n'aura aucune obligation ni de vous en donner une autre s'il est complet, ni même de vous rembourser. Et puis, dans la même idée, si vous devez quitter la chambre à 10h, ne traînez pas, parce que sinon, on pourra vous réclamer le prix d'une journée supplémentaire.
Et ça peut poser des problèmes. Une fois sur place, qu'est-ce que je fais si le lieu ne correspond pas à ce que j'imaginais?
Alors, si vous estimez que le logement ne correspond pas à l'annonce, vous pouvez avoir droit à un remboursement, même si vous êtes resté dans le logement. Vous pouvez aller jusqu'à demander des dommages et intérêts si vous avez dû loger ailleurs. Première chose à faire, encore une fois, voir directement avec le propriétaire. Et s'il refuse de vous dédommager, vous pouvez saisir le médiateur de la consommation. Et puis, évidemment, il faut faire un maximum de photos avec copie d'écran de l'annonce pour prouver votre bonne foi.
En été, on aime bien avoir une piscine dans nos locations. Qu'est-ce que je fais si elle est fermée quand j'arrive?
Ah oui, il peut y avoir des arrêtés préfectoraux, notamment en été, pour limiter la consommation d'eau. Alors, soit le propriétaire ne savait pas que la piscine serait fermée quand vous avez réservé. Dans ce cas, vous pouvez essayer de négocier quelque chose, mais votre hôte n'aura aucune obligation. Soit le propriétaire était au courant au moment de la réservation. Là, ça change tout. Ça devient une pratique commerciale trompeuse. C'est un délit. Donc, vous pouvez demander remboursement et dommages et intérêts. Et vous pouvez le dénoncer sur le site Signal Conso.
Des bons plans, les bons plans de Géraldine Demory. Avant de partir en vacances, que vous retrouvez, évidemment, sur l'appli RMC en podcast. RMC 5h30.
RMC Charles Matin.
Les infos en direct avec Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Martin, bonjour à tous. Le pouvoir d'achat, c'est la priorité des Français à 6 jours du scrutin législatif. La thématique arrive en tête des préoccupations des électeurs, loin devant la sécurité ou encore l'immigration. Résultat d'un sondage, elle a pour BFM TV la tribune dimanche publiée hier. Comment une femme de 37 ans a pu se retrouver dans un enclos de loups aux eaux de Thoiry hier matin? C'est la question à laquelle va devoir répondre l'enquête. La mère de famille grièvement blessée, désormais hors de danger. Et puis menace de grève sur le grand oral du bac dont les épreuves débutent ce lundi. Les professeurs dénoncent les cadences infernales des élèves de terminale.
Les mesures pour le pouvoir d'achat plébiscité dans l'urne dimanche.
C'est selon un sondage là pour BFM TV et la tribune dimanche le thème qui aura le plus d'importance pour les électeurs. 58% des Français placent la thématique dans leurs préoccupations. Pour un quart d'entre eux, il s'agit même d'une priorité devant la sécurité, devant l'immigration. L'écologie arrive en dernière position, un pouvoir d'achat mis à mal par l'inflation avec pour conséquence la popularisation des lotos et des bingos. Dépenser quelques euros pour tenter de gagner des bons d'achat. Illustration à Bobigny au bac dans le Nord, Johanna Chabas.
Près de 200 personnes sont venues tenter leur chance.
Et on y va avec le 57.
À gagner des bons d'achat de 30 à 1000 euros pour le supermarché du coin.
J'ai gagné 20 euros. La semaine dernière, j'ai gagné 100. Ça nous fait oublier les petits tracas quotidiens.
Au milieu des habitués aux cheveux blancs, de plus en plus de jeunes, Marco a 17 ans et s'est mis au loto l'an dernier.
Tous les week-ends, dès qu'on a un loto, on vient. Ma compagne, elle a gagné 1500 euros. Faire ses courses, ça aide.
Depuis l'année dernière et l'inflation, ce loto a vu sa moyenne d'âge chuter de 75 à 40 ans. Linda, dans la trentaine, vient pour s'amuser, mais aussi pour soulager ses fins de mois.
Forcément, quand on voit les prix en magasin, quand aujourd'hui ici on peut gagner, même si c'est 100 ou 50 euros en bon, ça fait toujours un plus. De toute façon, aujourd'hui, tout se prend.
Nathalie, elle, est devenue une habituée. Inquiète pour son pouvoir d'achat, elle attend beaucoup des élections à venir.
Il faut que ça change quand même. Ouais, il est temps. Surtout les trois enfants à la maison, faut les nourrir. Malgré qu'on travaille à deux, c'est très dur.
Elle ira voter dimanche avant de se rendre au loto, comme toutes les semaines.
Le pouvoir d'achat comme priorité, les différents blocs candidats aux élections législatives l'ont bien compris, les promesses fussent, c'est le cas du Rassemblement National et Jordan Bardella qui va présenter son programme ce matin à 11h, Jérémy Trottin.
En cas de victoire, il promet de réduire immédiatement les coûts de l'énergie et des carburants et de poursuivre les baisses d'impôts aux entreprises engagées par Emmanuel Macron. À venir également deux lois d'urgence sur la sécurité et l'immigration. Fin du droit du sol, emploi restreint pour les binationaux, priorité nationale. Que retiendra finalement Jordan Bardella qui devra respecter le cadre européen et qui ne pourra pas changer la constitution? D'ici à l'automne, le RN promet l'organisation des états généraux de la simplification. C'est ce que réclame notre électorat, explique un cadre du parti. Une conférence sociale sur les salaires, promise également pour, je cite, montrer que nous sommes capables de négocier avec les syndicats. Double enjeu donc pour le Rassemblement National aujourd'hui, prouver sa capacité à se transformer en parti de gouvernement sans totalement renier ses fondamentaux.
Le RN toujours en tête des sondages talonnés par le nouveau Front Populaire. Le bloc de la majorité reste troisième. Alors pour tenter de convaincre et remobiliser, Emmanuel Macron s'adresse aux Français ce matin dans une lettre publiée dans la presse locale. Le chef de l'État promet du changement et trace quelques perspectives pour l'après 7 juillet. Parmi les promesses, des réponses plus fortes et plus fermes contre l'insécurité et l'impunité notamment. Une enquête ouverte pour blessure involontaire après qu'une femme ait été grièvement blessée hier matin au zoo de Thoiry, attaquée par une meute de loups alors qu'elle faisait son footing. Âgée de 37 ans, elle venait de passer la nuit dans une lodge du parc à proximité des animaux, transportée en urgence absolue à l'hôpital après avoir été mordue au cou, au mollet et au dos. Ses jours ne sont plus en danger, Amine Lafchin.
C'est au petit matin, lorsqu'elle est partie faire son footing, que les loups s'en sont pris à cette femme dans une zone accessible uniquement aux visiteurs en voiture, où l'on peut observer les animaux dans leur environnement naturel.
Il y a des loups, des ours, des coyotes.
Christelle Bercheny est PDG du zoo de Thoiry.
Elle a franchi l'enceinte qui permet de rentrer en voiture, donc c'est une enceinte électrique.
Alors comment cette femme s'est-elle retrouvée dans cet espace? C'est ce que l'enquête doit déterminer. Mais selon le parc, les clients sont informés sur les dangers.
Ils ont un plan, ils ont des consignes de sécurité, ils ont un brief, ils ont les animateurs qui sont avec eux toute la soirée. Toutes les informations qui indiquent que c'est une zone dangereuse.
Blessée au cou, au dos et au mollet, elle est rapidement prise en charge par les soignants du zoo, présents au moment de l'incident.
Ils étaient en train de nourrir justement les groupes de loups et ont pu entendre justement les cris de la personne pour pouvoir intervenir au plus vite.
Et même si ces loups sont habitués à l'humain, Marc Giraud, naturaliste, n'est pas surpris. Selon lui, c'est parce qu'elle courait que les loups l'ont attaquée.
Pour n'importe quel prédateur, que ce soit un chien, un loup, un tigre, n'importe quoi, un chat, tout ce qui bouge les fascine et ils courent après. Il y avait tout pour que ces loups soient stimulés.
Une enquête a été ouverte pour blessure involontaire et confiée à la brigade de recherche de Mantes-la-Jolie.
Et rendez-vous, notez le rendez-vous à 6h10, on essaiera de comprendre pourquoi cette attaque a eu lieu, de comprendre le comportement qu'ont eu ces loups avec l'écologue Pierre Rigaud, notre invité tout à l'heure, donc à 6h10.
La fin des épreuves du bac pour plus de 700 000 candidats avec le début du grand oral ce lundi jusqu'au 3 juillet. Une épreuve pourtant menacée, conséquence d'un appel à la grève lancé par les professeurs de sciences économiques et sociales. Ils dénoncent, Margot Boult, des programmes trop chargés pour les épreuves écrites et l'impréparation des élèves.
Deux sujets choisis par Inès, 17 ans, dont un en SES, sciences économiques et sociales.
J'ai prévu de passer sur l'écoute du rap et son lien avec l'origine et une classe sociale.
Sauf qu'hier après-midi, alors qu'elle passe aujourd'hui, la lycéenne marseillaise n'avait toujours pas écrit son sujet.
Le plan il n'est pas en clair dans ma tête. La prof nous a simplement donné des feuilles, des méthodologies. Et elle s'est pas plus penchée sur le contenu. Donc je me retrouve la veille de l'oral à un peu galérer, quoi.
Sans professeur pour l'aider, elle a dû compter sur Internet.
Les conseils, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube, puisque avec mes copines, on essayait d'en parler, mais on n'était pas très, très renseignés.
La faute à des programmes trop lourds qui empêchent de consacrer des heures à cet oral, déplore Amandine Houlion, coprésidente de l'Association des professeurs de SES.
On est censé préparer au grand oral sur nos heures de cours, ce qui est rendu vraiment impossible par la lourdeur des programmes. En SES en particulier, on est passé à 12 chapitres à faire cette année contre 7 l'an dernier.
Avec son appel à la grève, l'association répète qu'elle ne veut pas pénaliser les élèves, mais plutôt alerter le ministère sur cette épreuve mal préparée.
6 mois avant le dernier match de poule pour les Bleus à l'Euro demain soir face à la Pologne avec la qualification 8e de finale dans le viseur des coéquipiers de Kylian Mbappé. Qualification acquise pour l'Allemagne. Le pays hôte termine premier de son groupe après un match nul. Un partout face à la Suisse hier soir, également qualifié. Soulagement du milieu allemand, Toni Kroos.
Avant toute chose, on est très content d'avoir réussi à se qualifier. On est aussi heureux d'avoir réussi à revenir après avoir été mené. Je pense que ce n'était pas immérité. La Suisse a marqué dès sa première occasion et au final, on mérite ce match nul parce qu'on a tout donné pendant 60 minutes.
Et dans ce même groupe-là, la Hongrie bat l'Écosse 1-0 et reste en course pour la qualification. Pourquoi ? Parce qu'il faudra terminer dans les 4 meilleurs 3e. La Hongrie qui perd Varga, l'attaquant évacué après un choc violent à la tête. Il doit être opéré en urgence. Ses jours ne sont cependant pas en danger. Place au match du groupe B ce lundi. L'Espagne assure une qualification, affronte l'Albanie. L'Italie devra batailler pour se qualifier face à la Croatie.
Les courses aujourd'hui, Thibaut, c'est à Lyon-Paris.
13h55 sur AMC, découverte en direct. Le 10, Thunder Speed est le favori de la Dream Team AMC. L'outsider, c'est le 6, Bozio. Le 10 et le 6.
Avec un très bel accent. Merci beaucoup, Thibaut. On se retrouve à 6h30 pour un nouveau journal. 6h38 sur RMC. On va aller faire un tour sur Direct Studio où le débat se poursuit entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre et ceux qui ne comprennent pas la désobéissance annoncée par certains cadres de l'éducation nationale.
Exactement. On a Philippe qui est fonctionnaire territorial justement, qui respectera le résultat des élections. S'il n'est pas d'accord avec ceux qui ont été élus, bien soit il attendra de changer par son bulletin, soit il quittera le pays. Laurent, qui trouve que c'est un comportement honteux, antidémocratique en tout cas, puisque le RN n'est pas interdit, c'est donc démocratique, c'est le peuple qui choisit, donc il fallait interdire sinon le Rassemblement national. Et puis tiens, on a aussi un autre Laurent qui nous dit que il sera en vacances samedi, départ en vacances, pas de vote pour nous, peut-être le deuxième tour. Mais Laurent, faut faire une procuration.
Oui, il y a des procurations à faire. On peut encore les faire, hein, ces procurations. Profitez-en si vous profitez de ce week-end pour partir, bah, en week-end, voilà, ou en vacances.
C'est l'occasion de le préciser.
Exactement. Ouais, on peut encore les faire. Il n'est pas trop tard. Et nous, on continue, hein, le débat. Donc, venez nous dire si vous comprenez ou non cet appel à la désobéissance. 5h39 sur RMC.
RMC, Charles Matin, êtes-vous bien réveillé?
Et à 5h39, on joue avec l'actu. On vous pose une question d'actu, vous essayez d'y répondre pour évidemment essayer de gagner un joli cadeau. La question du jour, Géraldine.
Quelle épreuve du bac commence aujourd'hui pour les lycéens?
On en a parlé il y a quelques minutes avec Thibaut Texer dans le journal. Ouais. Ils vont devoir parler, voilà, on peut dire ça, les lycéens et les candidats au bac aujourd'hui. Donc la réponse, vous l'avez forcément. Vous envoyez le mot actu par SMS au 732-16. Actu par SMS au 732-16 pour tenter de gagner un joli cadeau.
Le Radio Réveil, dernier cri de la marque Mus pour vous réveiller avec RMC.
Quelle épreuve du bac commence aujourd'hui pour les lycéens? Si vous avez la réponse, vous envoyez actu ACTU par SMS au 732-16. Bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi. Les indiscrets RMC.
Les indiscrets RMC, comme tous les matins, on vous emmène dans les coulisses de l'actualité. Ce matin, le guide dans ces coulisses de l'actualité, c'est vous, Sébastien Capps. Bonjour.
Bonjour Martin, bonjour Géraldine.
Bonjour.
Une question taraude, le camp présidentiel, Sébastien, camp présidentiel qui anticipe déjà le second tour. Faudra-t-il un front républicain contre le Rassemblement national, quitte à soutenir des candidats de gauche?
Oui, chez les stratèges de la campagne, la question se pose déjà parce que la situation va forcément se produire. Les sondeurs le disent, la forte participation va entraîner de nombreuses triangulaires, peut-être une centaine alors qu'il n'y en avait que 8 il y a 2 ans. Dans ces circonscriptions où 3 candidats pourront se maintenir, faudra-t-il alors faire front républicain avec la gauche pour battre le RN, quitte à se désister? Ce point n'a pas été tranché, mais des candidats ont commencé à s'en inquiéter auprès de Gabriel Attal lors d'une visio la semaine dernière. L'ancien ministre Clément Beaune, lui, dit clairement « Oui, il faudra toujours voter pour le candidat qui affronte le RN, y compris si c'est un insoumis. » Et c'est ce dernier point qui fait débat. RN, LFI, moi je les mets au même niveau, balaye un autre député sortant. Il faut faire barrage aux deux. Selon lui, il faudra décider au cas par cas. Plus facile, par exemple, de se ranger derrière un PS. Emmanuel Macron, lui aussi, a plutôt tendance à renvoyer dos à dos les deux extrêmes. L'un n'est pas le rempart de l'autre, a-t-il jugé vendredi soir. En tout cas, il faudra que la ligne soit claire dès dimanche soir, estime un cadre du camp présidentiel. Pour l'heure, ça nous affaiblit de se projeter là-dessus, dit-il, avec une conclusion. Cela prouve surtout que tout se joue au premier tour dimanche. Il ne faut surtout pas arriver troisième.
Indiscret signé Sébastien Krebs du service politique d'RMC.
RMC, Charles Matin.
5h42 sur RMC, vous vous reconnaissez la petite musique, ça veut dire que toute la bande de Charles Matin est en train de nous rejoindre. Jordan Olivier est là pour la Story Sport. Salut Jordan.
Salut Martin, bonjour à tous. On va parler du nouveau champion de France de cyclisme, Paul Lapeyra, pas forcément le coureur le plus connu.
Non, je te confirme, on va avoir besoin de toi pour nous le présenter. Anthony Morel est également là pour la tech.
Salut Anthony. Tout le monde, on va aller faire un tour du côté de l'Euro. Je vais m'intéresser au ballon officiel, oui. Qui est un ballon connecté, oui. Et il fait pas que des heureux.
Oui, tu nous racontes ça dans un instant effectivement. Et puis comme bonjour Géraldine, ton bonus.
Je vous parle d'un film de KPDP français qui sort cette semaine, qui promet d'être un gros succès. Allez, vous avez une petite minute pour trouver de quel film je veux parler.
Et on y revient dans un instant. Et puis on sera avec Ludo au 32-16 qui nous rejoint, qui va nous parler de cet appel à la désobéissance lancé par des cadres du Rassemblement National en cas de victoire du Rassemblement National aux prochaines élections législatives. A tout de suite.
RMC, Charles Matin.
5h44 sur RMC, toute la bande de Charles Matin est là autour de moi dans ce studio. Jordan Olivier qui va nous présenter celui qui portera le maillot bleu-blanc-rouge sur les routes du Tour de France à la fin de la semaine du sport. Et on aura aussi, tiens, dans la chronique d'Anthony Morel, on va parler du ballon hyper connecté utilisé pour les matchs de l'Euro. Et puis Géraldine qui va nous parler d'un film de KPDP. Je vous laisse le suspense si jamais vous n'avez pas trouvé. On est en ligne également avec Ludo qui nous appelle de Saint-Etienne. Bonjour Ludo.
Bonjour, je suis désolé, mais je vous entends hyper mal.
Ah, alors on va essayer de voir. Est-ce que on va voir si vous nous entendez bien.
Nous on vous entend bien.
Nous on vous entend parfaitement. En tout cas, Ludo, si ça peut vous rassurer.
Si vous m'entendez, on devrait pouvoir s'en sortir, mais je vous entends vraiment très loin. Allez-y, je vous écoute.
On va essayer de faire ça distinctement. Ludo, on voulait revenir avec vous sur ces appels à la désobéissance lancés par certains cadres de l'éducation nationale. Il y a une pétition qui a été lancée pour appeler à la désobéissance en cas de victoire du Rassemblement national aux législatives. S'il y a un gouvernement d'extrême droite qui donne des directives contraires aux valeurs de la République, certains cadres de l'éducation nationale disent on va désobéir. Est-ce que vous le comprenez? Vous êtes agent de sécurité, vous, Ludo. Est-ce que vous comprenez cet appel à la désobéissance?
Alors, je ne le comprends pas vraiment dans le sens où il me paraît totalement inutile.
C'est-à-dire, vous ne pensez pas qu'on aura un gouvernement Rassemblement national?
Pardon?
Vous ne pensez pas qu'on aura un gouvernement Rassemblement national?
Alors ça me paraît totalement impossible, oui.
D'accord. C'est pas ce que disent les sondages pour le moment. Enfin, en tout cas, les sondages donnent le Rassemblement national largement gagnant.
C'est un scrutin à deux tours, faut remporter une majorité.
Et puis les sondages, c'est pas forcément la vérité dans les gens.
Tiré par les cheveux. Mais. Pardon. Mais donc, je me disais que la France était dotée d'un certain nombre de filtres démocratiques et républicains qui font que même s'ils leur venaient en tête des idées farfelues, ils pourraient de toute façon pas les appliquer.
Mm-hmm. Mais est-ce que.
Donc, je suis même pas.
Est-ce que quand vous voyez des professeurs, des cadres, des proviseurs, des directeurs d'école en arriver à ce point, ça vous inquiète? Vous dites que le signal, il est quand même pas très bon.
Ça m'inquiète pas vraiment. Et en même temps, c'est un droit pour les fonctionnaires. Hein. Le droit à la désobéissance. Et il existe même dans l'armée.
Alors, ils ont un droit à la désobéissance, effectivement, si les directives sont effectivement contraires aux valeurs de la République. Après, ce sera au juge de décider si c'est effectivement s'ils ont le droit ou pas.
Ouais.
Mais est-ce que ça, quand je vous demande si vous le comprenez, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que vous vous dites, moi je comprends qu'on puisse avoir envie de désobéir si on se retrouve avec un ministre qui.
Bien sûr, je comprends. Ouais. Je comprends qu'on ait envie de désobéir face à certaines situations inacceptables, mmh. évidemment. Mmh. Mais ça me paraît. Ça me paraît superflu de faire des choses pareilles.
Ouais, enfin, vous pensez pas qu'on en aura besoin d'en arriver là?
Voilà, absolument.
Ok. Bon, bah écoutez, on continue le débat ce matin. Oui, allez-y.
J'ai un tout dernier mot sur Macron, si je puis me permettre, sur Emmanuel Macron. Je voudrais dire qu'il passe son temps à expliquer qu'il va changer. Et ça me paraît être un comportement d'un mari violent avec sa femme, par exemple. Qui, à chaque fois qu'il est menacé d'être mis dehors, il explique qu'il va changer.
Oui, avec la nouvelle lettre qu'Emmanuel Macron a envoyée aux Français, notamment ce matin dans la presse régionale. Le message est passé. Ludo, restez avec nous. Est-ce que vous aimez un peu le cyclisme?
Non, du tout.
Écoutez, on va essayer de vous faire aimer le cyclisme. C'est Jordan Olivier qui va avoir cette mission. Il y a le Tour de France qui commence ce week-end. Et hier, il y avait les championnats de France de cyclisme remportés. Jordan, par un inconnu du grand public.
Oui, sur les routes de Normandie, on attendait Benoît Cosnefroy, Valentin Madouas ou bien encore Julian Alaphilippe. Mais les stars tricolores se sont fait voler la vedette par le petit gars du coin.
Paul Lapeyrat qui lance le sprint à 150 mètres environ de la ligne d'arrivée. Paul Lapeyrat, il peut lever les bras. Quelle victoire! Quelle victoire de Paul Lapeyrat, nouveau champion de France et Décathlon AG2R la
Paul Lapeyrat, 24 ans, coureur de la formation Décathlon AG2R la mondiale, a décroché son premier titre de champion de France devant les cadors du peloton, avec une arrivée située à Saint-Martin-de-Landelle, dans la Manche, à seulement 5 km de la maison de ses parents, sur un tracé qu'il connaît par cœur. Alors forcément, ce sacre devant sa famille, devant ses amis, eh bien, ça lui fait quelque chose de spécial.
J'ai rêvé, et entre le rêver et le faire, il y a deux mondes. C'est une arrivée que je connais par cœur, j'aurais pu la faire les yeux fermés. Je savais comment fallait manœuvrer, et une fois que j'étais revenu, je savais que ça pouvait pas m'échapper.
L'émotion de Paul Lapeyrat, cette victoire, Jordan, c'est aussi l'aboutissement en quelque sorte d'une saison plutôt réussie pour Paul Lapeyrat.
Oui, une saison qu'il a révélée au plus haut niveau avec une première victoire d'étape en World Tour. C'était lors du Tour du Pays Basque en avril. Il y a également eu une encourageante cinquième place lors de l'Amstel Gold Race. Une progression constante qui pourrait le mener aux Jeux Olympiques, selon Vincent Lavenu, son manager.
Je pense qu'il est dans le viseur du sélectionneur. C'est un garçon qui a des qualités de puncher indéniables, qui est capable surtout de bien maîtriser ses émotions dans le final. Il est en pleine progression, donc pour moi tout est envisageable, mais c'est le sélectionneur qui fera la différence.
Et le sélectionneur, c'est Thomas Vauclair, l'ancien cycliste. Il était présent hier d'ailleurs, il a dû apprécier avant les JO. Il y a quand même le Tour de France qui débute samedi.
Ah oui.
Hier, Lapeyrat a lui-même annoncé qu'il serait bien présent sur la grande boucle, évidemment avec le maillot bleu, blanc, rouge de champion de France.
Et ça, c'est toujours un peu particulier, le Tour de France avec le maillot bleu, blanc, rouge. Évidemment, le Tour de France, vous le savez, hein, même si on est en plein Euro, vous ne ratez rien, vous ne raterez rien de ce Tour de France sur RMC, l'intégral Tour, tous les jours. Il y aura aussi une radio digitale Tour de France, donc vous ne raterez rien des 21 étapes de ce Tour de France 2024. Vous ne ratez rien également de l'Euro sur RMC, vous le savez. Vous ne ratez rien, y compris la technologie déployée lors de cette Euro 2024, avec donc ce ballon officiel qui est blindé de technologie, ouais, mais qui fait polémique, puisque pour la première fois, donc l'UEFA a décidé d'utiliser un ballon connecté pour éviter les erreurs d'arbitrage. Ça fait pas que des euros, Anthony.
Clairement, à commencer par la Belgique, hein, qui a été la première victime, si l'on peut dire, de ce ballon ultra connecté. C'était lors du match face à la Slovaquie. Ils ont perdu 1-0, deux buts refusés à la Belgique, dont un à cause, ou grâce, selon le point de vue, hein, de Fußball Liebe, l'amour du foot. C'est le nom de ce ballon connecté, équipé d'une micro-puce électronique qui est capable de percevoir tout ce qui se passe sur le terrain, y compris le moindre contact des joueurs avec le ballon et avec quelle partie du corps aussi. Et là, en l'occurrence, c'est une main de l'attaquant belge Loïs Openda. Personne n'avait vu. D'ailleurs, le but avait été accordé, hein, donc pas de problème. Sauf
et personne n'avait réclamé de main.
Ben non, il n'y avait aucune réclamation. Sauf que c'est le ballon lui-même, petit mouchard, qui a signalé à l'arbitre que oui, il y avait eu un contact très léger avec la main du joueur. Alors d'ailleurs, on pouvait le voir hein, sous forme d'un petit électrocardiogramme qui montre la trajectoire déviée par la main. Il n'y a aucune contestation possible une fois qu'on a vu ça. Sauf que, encore une fois, personne n'avait posé la question. Après vérification vidéo, l'arbitre a décidé de refuser le but. Le contact est indiscutable. Et c'est une illustration soit de l'utilité, soit du crime de lèse-majesté, selon les points de vue que représentent ces ballons connectés qui vont devenir la norme dans toutes les compétitions internationales. Ce ballon, pour vous expliquer rapidement, il est équipé notamment d'un capteur d'unité de mesure inertielle qui pèse quelques grammes et qui va analyser la position du ballon 500 fois par seconde, envoyer cette information vers des antennes positionnées autour du terrain. Ça permet à la fois de détecter les hors-jeux avec une très très grande précision, Et puis aussi de détecter les mains, mais même s'il y a un frôlement, on va pouvoir le détecter sans aucun problème. Il y avait eu un précédent, c'était lors de la Coupe du Monde, où en fait pendant le match, alors c'était Portugal-Uruguay, où il y avait un doute sur qui avait marqué. Est-ce que Ronaldo, qui avait frôlé le ballon de la tête, c'était lui le buteur ou pas? Et en fait, c'est le ballon connecté qui a déterminé que non, c'était Ronaldo, avait pas touché le ballon.
Des ballons blindés de technologie, c'est des bijoux de technologie, ces ballons, ça te plaît, Jordan, toi?
Moi j'aime bien, mais après, faut pas que la technologie prenne le pas sur le jeu, sur l'émotion, sur aussi les erreurs d'arbitrage qui font partie du jeu.
On est d'accord, c'est exactement ça. C'est-à-dire, où est-ce qu'on place le curseur finalement entre l'humain, le côté automatisation et déshumanisation du foot, et puis les erreurs, parce que la technologie, elle n'est pas infaillible non plus. Je parle sous le contrôle de Jordan, évidemment, mais ça s'est déjà vu. Par exemple, un ballon qui franchit clairement la ligne de but, mais la montre de l'arbitre qui est censée vibrer maintenant, elle ne vibre pas, parce qu'il y a un petit bug technique. Ah bah oui, le but est refusé, parce que la montre n'a pas vibré. Ça, c'est quand même problématique. Donc la technologie, c'est bien, mais il faut pas non plus avoir une confiance aveugle. L'autre avantage quand même de tous ces objets connectés, c'est que ça permet, avec la masse de données récupérées par les ballons, les systèmes de tracking, d'avoir des rendus 3D. Pour les spectateurs, c'est pas mal aussi, ça permet d'avoir des modélisations 3D extrêmement spectaculaires. Ça, c'est aussi intéressant.
Mais en tout cas, c'est vrai que c'est assez impressionnant comment la technologie s'invite dans le monde du sport. On passe au bonus, Géraldine. Le bonus dont tu nous parles aujourd'hui, c'est la sortie cette semaine au cinéma d'une nouvelle adaptation du Comte de Monte Cristo.
Eh ben oui, ça va être l'événement cinéma de la semaine, hein. Le Comte de Monte Cristo, donc c'est un classique évidemment de la littérature. Le personnage d'Edmond Dantès de retour dans les salles, interprété cette fois par Pierre Niney. Sauf qu'interpréter le rôle du Comte de Monte Cristo, même quand on s'appelle Pierre Niney, c'est un sacré boulot. Il a dû prendre des cours d'apnée, d'équitation, d'escrime. Et pour prendre les traits d'Edmond Dantès, Pierre Niney a passé beaucoup, beaucoup de temps en maquillage.
On a fait 150 heures de maquillage en tout sur le film, sur 75 jours de tournage, un truc comme ça. Je crois que c'est la première adaptation en film où on va vraiment au bout de ce concept de la transformation physique de manière réaliste.
Alors Pierre Niney, mais il y a aussi Laurent Lafitte, Anaïs de Moustier au casting. Le film avait été présenté à Cannes le mois dernier et il arrive donc au cinéma. Alors attention, pas mercredi, mais vendredi à l'occasion de la fête du cinéma.
À partir de maintenant, c'est moi qui récompense. Et c'est moi qui punis.
Ludo.
Qui êtes-vous ?
Ludo, vous aimez bien le cinéma, est-ce que ça vous donne envie d'aller le voir, ce film-là, le Comte de Monte Cristo, interprété par Pierre Niney?
Carrément, ouais. Déjà, l'histoire du Comte de Monte Cristo est passionnante.
Et Pierre Ninet, il est génial. Je l'ai découvert récemment dans la série Fiasco.
Ouais.
Ah ouais.
Il m'a tellement fait rire. Enfin, ouais. Vraiment,
bah, a priori,
il...
c'est pas du tout le même genre
c'est
de rôle.
Ah ouais,
dans le Comte de Monte Cristo.
Ça, c'est vrai.
Non, bah, vous pourrez donc découvrir ça en salle, donc vendredi au cinéma. Merci beaucoup, Ludo, d'avoir été avec nous ce matin.
C'est moi qui vous remercie.
Bonne journée du côté de Saint-Etienne. Merci, Anthony. Merci, Jordan. Merci, Géraldine, pour toutes ces infos. 5h55, on se retrouve dans un instant sur RMC, RMC Story avec à la une le journal de 6h, les justifications d'Emmanuel Macron sur la dissolution de l'Assemblée. C'est ce matin dans une lettre envoyée aux Français.
Bon réveil à tous sur RMC, il est 6h.
RMC, Charles Matin.
À 6h, le journal, c'est avec vous. Quentin Vinet, bonjour.
Bonjour Martin, bonjour à tous. Une lettre d'Emmanuel Macron ce matin dans les journaux. Le président écrit aux Français pour promettre de profonds changements en cas de victoire de son camp aux législatives, puisque c'est la dernière semaine de campagne là, qui commence ce matin. Regain de tension cette nuit en Nouvelle-Calédonie, affrontement et incendie cette nuit après le placement en détention provisoire de 7 indépendantistes. On va y revenir. Et l'Euro de foot, l'Allemagne première de son groupe, ça y est, mais l'Allemagne a eu chaud en arrache. Sachant le nul partout contre la Suisse hier soir.
Et puis une femme attaquée par trois loups hier au zoo de Thoiry. Comment cette attaque a-t-elle pu arriver? On va essayer d'y répondre avec l'écologue spécialiste du loup, Pierre Rigaud. Il est notre invité juste après le journal. Emmanuel Macron écrit donc aux Français.
Le président rédige une lettre publiée ce matin dans la presse régionale au début de la dernière semaine de campagne de ces législatives avant le premier tour, ce sera dimanche. Et encore une fois, Sébastien Krebs, il promet des changements, il s'explique.
Oui, cette lettre commence par une longue justification sur sa décision de dissoudre l'Assemblée. Je sais que cela suscite de l'inquiétude et même une colère contre moi, concède Emmanuel Macron. Mais c'était le seul choix possible, écrit-il, évoquant une décision prise avec beaucoup de gravité. Le président qui se lance ensuite dans un comparatif des programmes. Cette élection n'est pas un vote de confiance envers le président, dit-il, mais celle d'une question. Qui pour gouverner la France? L'extrême droite autour du Rassemblement National ou bien la France insoumise et ses alliés, voilà comment il préfère nommer ses concurrents, face à un bloc central. Cette troisième voie est la meilleure pour notre pays, insiste le chef de l'État, qui conclut sur une promesse. La manière de gouverner doit changer profondément. Je ne suis pas aveugle, écrit le président. Je mesure le malaise démocratique.
Alors le dernier sondage Elab pour BFM TV et la Tribune dimanche donne le Rassemblement National en tête des intentions de vote à 36%. Le nouveau Front Populaire à 27% et les Macronistes à seulement 20%. C'est ce matin, après la gauche et le camp présidentiel, que le RN va présenter son programme en cas de victoire aux législatives, au moment où dans des tribunes, des diplomates et des agents du Quai d'Orsay alertent sur une victoire de l'extrême droite et des cadres de l'éducation nationale promettent de sortir de leur devoir de réserve et de désobéir, disent-ils, aux consignes d'un potentiel gouvernement RN, Nicolas Repère.
L'arrivée du Rassemblement National au pouvoir, c'est tout simplement inacceptable pour Alain-Philippe Gauzy, principal adjoint dans un collège de région parisienne.
L'école telle que la prône l'extrême droite n'est pas compatible avec l'école de la République pour laquelle je me suis engagé.
Alors, en cas de victoire de l'extrême droite, ce cadre de l'éducation nationale envisage deux solutions.
On peut lutter en interne, on peut désobéir pour marquer une désapprobation. Et en dernier recours, effectivement, si on ne me laisse pas le choix, de quitter la fonction publique.
Une désobéissance qui pourrait faire tache d'huile chez les fonctionnaires du ministère de la Justice ou à l'université. Le monde médical aussi s'interroge, témoigne le médecin Antoine Pellissolo, chef du service de psychiatrie d'un hôpital public.
Désobéir, finalement, il y a plusieurs manières de le faire, mais en tout cas, tout faire pour protéger les personnes exposées qui seraient dans ce cas-là rendues plus vulnérables par manque de soins. Oui, bien sûr, on soignera toutes les personnes qui en ont besoin, c'est dans le serment d'Hippocrate, etc. Mais aussi, bon, il faut pouvoir financer ces recours, notamment pour les médicaments, par exemple.
Mais dans les hôpitaux, difficile d'imaginer les soignants s'engager massivement contre un Jordan Bardella, Premier ministre, reconnaît une représentante syndicale.
Venez nous dire ce matin, est-ce que vous comprenez ce mouvement annoncé de désobéissance en cas de victoire du Rassemblement National aux législatives? Je sais qu'il y a pas mal de profs qui nous écoutent, notamment le matin. Venez nous dire si vous seriez prêt, vous aussi, à désobéir en cas de victoire. Quelle est l'ambiance en ce moment autour de vous, dans la salle des profs, par exemple? Vous nous appelez au 3216 et vous laissez vos messages sur l'appli RMC onglet direct studio.
À la gauche continue de se déchirer autour du nom d'un potentiel et futur Premier ministre en cas de victoire. C'est Jean-Luc Mélenchon qui a relancé le sujet en se positionnant samedi. Et alors, réaction dans la foulée, François Hollande, Fabien Roussel ou écoutez Lionel Jospin, c'était hier soir sur BFM TV.
Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon n'est pas la solution. Et je fais confiance aux futurs élus du nouveau Front Populaire pour choisir un homme et une femme qui sera capable de rassembler et ensuite de gouverner en écoutant les autres. Il faut que chacun se convainque, y compris Jean-Luc Mélenchon, qu'un autre choix devra être fait.
Il est 6h04 sur RMC et la situation se tend à nouveau en Nouvelle-Calédonie dans la foulée de la mise en examen et du placement en détention provisoire en métropole de 7 indépendantistes accusés d'être à l'origine des émeutes. La nuit a donc de nouveau été tendue avec des incendies et des affrontements qui ont fait un blessé, Solène Gardry.
Oui, des affrontements ont eu lieu entre les indépendantistes et les forces de l'ordre sur l'ensemble de Grande Terre, l'île principale. Affrontements qui se sont soldés par un blessé, mais aussi par l'incendie d'un commissariat municipal et d'une mairie. Une nuit marquée aussi par de nouveaux barrages et la prise à partie des forces de l'ordre, selon le Haut Commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie, qui précise que de nombreux renforts ont dû être mobilisés et que ce matin, plusieurs incendies sont maîtrisés. 6 semaines après le début des émeutes, ce regain de violence est dû à la mise en examen samedi de 7 militants liés au mouvement indépendantiste du CCAT, la cellule de coordination des actions de terrain, et à leur envoi en métropole pour être placés en détention provisoire.
C'est une affaire de féminicide hors norme qui va être jugée à partir d'aujourd'hui aux assises de Douai, dans le Nord. La mort de Nathalie Debailly, 47 ans, kidnappée, égorgée par son ex-compagnon. C'était à La Madeleine, près de Lille, en 2019. Ex-compagnon qui avait tout préparé avec 3 complices qui seront également jugés. Et alors que la victime avait alerté la police avec une plainte et 3 mains courantes, aucune mesure n'avait été prise, Julie Brault.
Un crime qui aurait pu être évité. 5 ans après, Nicolas en est toujours convaincu. En 2019, sa sœur Nathalie avait pourtant quitté celui qu'il appelle aujourd'hui son bourreau, un ex-conjoint qui l'a harcelé pendant des mois avant de planifier son assassinat.
C'est un long chemin de torture psychologique, de harcèlement, de menaces de mort, et qui va se terminer par cette matinée abominable pour elle où elle va être enlevée, séquestrée, bâillonnée, mutilée, torturée et sauvagement égorgée dans une baignoire.
Durant les 4 mois qui ont précédé sa mort, Nathalie avait pourtant alerté la police de Lille. Au total, elle avait déposé 3 mains courantes et 1 plainte pour dénoncer les menaces de mort de son ancien compagnon. Mais aucune n'a abouti, dénonce son frère.
La seule plainte que ma sœur a obtenue au commissariat de police n'a pas été transmise au parquet. Donc finalement, dans cette histoire-là, la justice ne pouvait pas faire grand-chose.
Si l'accusé qui a reconnu les faits risque aujourd'hui la prison à perpétuité, les proches de Nathalie, eux, ont aussi attaqué l'État en responsabilité. Un procès qui se tiendra à la fin de l'année.
Après les écrits, les oraux au début du grand oral du bac aujourd'hui. Ça va durer 10 jours, ça compte pour 10% de la note finale. Une matière par candidat. Mais l'association des professeurs de sciences économiques et sociales appelle à la grève à partir d'aujourd'hui pour dénoncer le manque de préparation de ces grandes orales. Des nouvelles des Bleus à l'Euro de foot. On est à la veille du dernier match de poule contre la Pologne. Les Bleus avec Kylian Mbappé et son nouveau masque, Arthur Perrault.
Oui, Kylian Mbappé s'est essayé avec un nouveau masque noir avec son nom et numéro inscrit. Et dès son arrivée sur la pelouse, il s'est fait chambrer par Antoine Griezmann qui fredonnait la chanson de Zorro. Mais sur ses 10 premiers tirs à l'entraînement, aucun but inscrit de Mbappé. Le joueur du Real Madrid a demandé à changer de masque avant de totalement le retirer pour un jeu en fin de séance dans la bonne ambiance. Un entraînement léger, surtout fait pour les remplaçants du dernier match contre les Pays-Bas. L'attaquant Bradley Barcola n'a pas vraiment rassuré lui non plus, multipliant les frappes ratées face aux gardiens. Reste à plusieurs changements pour la rencontre demain soir face à la Pologne. Reste à savoir si Kylian Mbappé fera partie des heureux élus.
Alors l'Allemagne termine première de son groupe en arrachant le nul. Les Allemands 1-1 contre la Suisse. Ça s'est joué dans les arrêts de jeu. La Hongrie aussi a gagné après 10 minutes d'arrêt de jeu hier soir, 1-0 contre l'Écosse.
Ouais, des matchs qui se sont terminés beaucoup trop tard pour que Manu Le Chip puisse vraiment en profiter. Salut Manu.
Ça va bien.
Ça va et toi?
Ouais.
T'as réussi à regarder un peu.
J'avoue que j'étais un peu pris par Suisse-Allemagne, ouais. Mais je suis allé me coucher.
Pas allé au bout, ouais, non plus.
Avant la fin, et j'ai pas vu l'égalisation.
Et le concours de pronos ce matin, tu te rends compte que t'as perdu pas mal de points à cause de César et de jeu. Merci beaucoup, Quentin. On te retrouve à 7h pour un prochain journal. Il est 6h09 sur RMC.
RMC, Charles Matin, êtes-vous bien réveillé?
Et on joue ensemble ce matin, évidemment, comme tous les jours, on joue avec l'actu. Vous devez répondre à une question qu'on vous pose, que Géraldine vous pose.
Quelle épreuve du bac commence aujourd'hui pour les lycéens?
On a parlé il y a quelques instants avec Quentin. Elle dure jusqu'au 3 juillet, cette épreuve.
Stressante.
Épreuve stressante où il faut parler. Voilà, vous avez des indices si vous voulez. Donc vous avez la réponse forcément. Vous envoyez le mot actu par SMS au 732-16 pour tenter de vous inscrire. Actu par SMS au 732-16.
Et ça vaut le coup. Il y a un très joli radio réveil de la marque Muse à gagner si vous êtes tiré au sort.
On vous repartez avec ce radio réveil si vous avez la réponse à cette question. Quelle épreuve du bac commence aujourd'hui pour les lycéens? Vous avez la réponse. Vous envoyez actu par SMS au 732-16. Bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
À suivre dans Charles Matin sur RMC.
Une mère de famille grièvement blessée après avoir été attaquée par trois loups. Ça s'est passé hier au zoo de Thoiry. Cette trentenaire était partie faire son jogging dans une zone normalement interdite aux visiteurs où les animaux circulent en toute liberté. Comment expliquer cette attaque? Pour nous répondre, l'écologue spécialiste du loup, Pierre Rigaud, est mon invité dans un instant.
RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin, Martin Bourdin.
Bon lundi sur RMC 6h12.
L'invité de Charles Matin.
Bonjour Pierre Rigaud.
Bonjour.
Vous êtes écologue, auteur de Loup, un mythe vivant aux éditions de La Chaux et Niestlé. Des loups, justement, ont attaqué hier une touriste au parc de Thoiry. Trois animaux qui ont gravement mordu la victime au cou, au mollet et au dos. Cette mère de famille de 37 ans est hors de danger. Désormais, elle se trouvait dans une zone interdite aux piétons. Elle était rentrée dans cette zone alors qu'elle faisait un jogging. Pierre Rigaud, je voulais commencer par vous poser cette question. Comment est-ce possible qu'une touriste se retrouve dans une zone interdite aux piétons? Dans un zoo, dit comme ça, ça paraît dingue.
Bah ça, j'en sais rien. Moi, je connais pas le zoo de Thoiry. Je sais pas ce qui peut se passer. J'espère que cette dame va se rétablir. Mais il faut rappeler que de toute façon, c'est une situation anormale au départ que des loups soient enfermés, qui sont des animaux sauvages, en captivité toute leur vie. C'est une situation anormale. Et à cette situation anormale, c'est ajouté manifestement un comportement ou quelque chose d'anormal en plus.
Est-ce que vous, ça vous a surpris quand vous avez entendu cette attaque, quand vous avez entendu ce qui s'est passé, la réaction des loups, les trois loups qui mordent cette femme au cou, au mollet, au dos? Est-ce que vous avez été surpris?
Alors, j'étais surpris du fait que cette personne puisse accéder à l'enclos des loups, mais il faut savoir que dans la nature, il n'y a pas d'attaque de loups sur l'humain. C'est en tout cas extrêmement rare. C'est vraiment rarissime à l'échelle mondiale. Par exemple, en France, depuis 30 ans que des loups reviennent de façon spontanée dans la nature, essentiellement dans le sud-est du pays, mais aussi ailleurs, il n'y a absolument aucune attaque qui est avérée de loups sur l'humain. Et simplement là, en captivité, on a des loups qui sont des animaux sauvages et qui ont des comportements qui sont anormaux de toute façon, puisque c'est une situation anormale pour eux, comme pour n'importe quel mammifère sauvage, de passer sa vie depuis leur naissance jusqu'à leur mort enfermée. Et ils peuvent se comporter de façon complètement différente de ce qui se passe dans la nature.
C'est-à-dire de manière plus violente dans la nature? Vous dites qu'ils n'auraient pas attaqué, ils auraient fui?
Ah, ils auraient fui, ou vous savez, là par exemple, je vous parle depuis le village où j'habite, qui est en plein cœur de territoire de loups, dans le Vercors, où ça fait 20 ans qu'il y a des loups, et ils empruntent les mêmes chemins que nous, alors pas au même moment, dans la forêt juste à côté, par la fenêtre, il y a déjà eu des loups qui sont passés en forêt pas loin, et en fait, on les croise pas, ou quand on les croise, ils nous attaquent pas, ils nous fuient, ils nous regardent éventuellement, mais le plus souvent on les voit pas, simplement en captivité. Ce sont des animaux qui sont dans un espace qui est extrêmement petit. Même si le zoo de Thoiry, semble-t-il, j'y ne suis jamais allé, mais c'est un...
Oui, les espaces sont quand même assez vastes.
Il y a un peu plus d'espace que dans la nature. Mais le territoire des loups dans la nature, c'est plusieurs centaines de kilomètres carrés. Et là, donc, on est dans, finalement, l'intimité des loups. Quand on entre dans un enclos comme ça, c'est un peu comme si on entrait dans votre chambre ou dans votre cellule, plutôt, parce que ce sont des animaux prisonniers qui peuvent avoir des comportements entre eux et qui ne correspondent pas du tout à ce qu'ils feraient dans la nature.
Est-ce que ce que dit la direction du zoo, elle évoque des comportements d'animaux en liberté ou en semi-liberté?
Non.
Finalement, non, c'est des animaux en captivité. Concrètement, qu'est-ce que ça change sur leur comportement?
Bah, ça change que vous entrez dans leur intimité au plus proche, en fait. Dans la vie des loups normales, comme on pourrait... En fait, nous humains qui vivons dans le territoire des loups, on a des territoires humains, des territoires de loups qui se chevauchent, là, par exemple, autour de chez moi, comme dans plein d'endroits en France ou ailleurs dans le monde. Ces animaux-là vivent sur un très grand espace et ils considèrent pas les humains comme quelque chose d'anormal sur leur territoire. Mais là, en captivité, en fait, ils ont pas l'habitude de côtoyer des gens autres que sans doute les gens qui travaillent sur le lieu. Ce qui fait que ça peut être perçu comme, je ne sais pas si ces loups peuvent percevoir l'intrusion de quelqu'un comme ça dans leur espace clos qui est très proche, dans leur intimité finalement. Est-ce qu'ils le perçoivent comme un danger, comme une proie potentielle? Tout ça, on ne peut pas savoir parce que ce sont des animaux qui de toute façon sont perturbés. C'est ça qu'il faut bien avoir en tête. Ce ne sont pas des animaux qui ont un comportement normal. De toute façon, les animaux en captivité ont un comportement anormal et c'est comme ça qu'on voit par exemple aussi dans le cas d'autres mammifères, ça arrive parfois hélas que par exemple un orque en captivité dans un marine land tue par exemple son soigneur, alors que dans la nature, vous nagez en mer, vous ne faites pas attaquer par des orques.
Ça va relancer évidemment le débat sur la pertinence d'avoir des parcs comme ceux-ci. Les animaux sont dans des enclos, vous l'avez dit, ils sont certes parfois grands, mais rien à voir avec l'espace qu'ils auraient dans la nature. Faut en finir avec ces zoos, ces parcs animaliers.
Moi, je pense que les loups sauvages n'ont rien à faire. Les loups n'ont rien à faire dans des enclos parce que d'abord, ils ont besoin d'un grand territoire. Et puis, en plus, c'est vraiment un business qui est basé sur l'exploitation de ces animaux, finalement. Donc, on devrait plutôt avoir une vision autre, c'est-à-dire essayer d'emmener les gens dans la nature. Pourquoi pas? Il y a d'ailleurs des guides de nature qui vous emmènent aller sur les traces des loups. Évidemment, on va pas les voir ou que de façon exceptionnelle parce que justement, ils nous fuient, ils sont difficiles à observer dans la nature. Mais il faut se rendre compte que là, quand ça s'appelle safari et tout, c'est du pipeau. C'est un business basé sur l'exploitation des animaux sauvages.
Protéger la biodiversité?
Pardon?
C'est pas une manière de protéger la biodiversité, protéger certaines espèces?
Alors non, il y a, quand on dit qu'il y a des programmes de conservation, que je ne sais pas moi, certains zoos mettent de l'argent, c'est des choses qui ponctuellement peuvent exister, mais globalement on est sur une exploitation d'animaux qui sont reproduits en captivité. C'est un business à partir d'animaux qu'on fait se reproduire et qu'on montre au public d'une façon ou d'une autre. Alors c'est plus ou moins sordide parce qu'il y a des zoos où c'est carrément sordide, ou plus ou moins attrayant parce qu'on peut avoir l'impression de faire un safari en voiture au milieu d'un parc dans lequel les animaux ont l'air en liberté. Ils ne sont pas en liberté, ils sont en captivité, ils ont des comportements normaux, ils ont une vie anormale, et je pense qu'on devrait passer à autre chose.
Et ça, on a peut-être tendance à l'oublier aussi quand on va dans les zoos. On a peut-être tendance à oublier qu'effectivement, ce sont, même si les espaces sont grands, des animaux en captivité. Merci beaucoup, Pierre Rigaud, d'avoir été avec nous ce matin. Merci pour ces éclairages. Je rappelle également qu'une enquête pour blessure involontaire a été ouverte ensuite à cette attaque de loup hier. Une touriste de 37 ans, mordue gravement au cou, au mollet et au dos par trois loups. RMC, 6h18.
RMC, Charles Matin.
Dans un instant, c'est Manu Conso.
On part en vacances et pour pas trop cher.
RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin, Martin Bourdin.
6h20 sur RMC, c'est l'heure de Manu le Globetrotter ce matin.
RMC, Manu Conso.
Parce que Manu Le Chip est venu en studio avec de bonnes nouvelles, il y a de bonnes affaires à faire pour les vacances, Manu.
Bah, figurez-vous qu'il y a peut-être une grève qu'on n'a pas vu venir pour cet été. C'est celle des vacanciers. Vacanciers qui ont quand même accepté de supporter l'envolée des prix des vacances depuis la fin du Covid. Alors, ils avaient accepté parce qu'ils avaient, c'est vrai, un besoin important de vacances, de voyages. Il faut rappeler que les prix des vacances, depuis 2 ans, c'est quand même 25% de hausse. Ah oui. Ça a augmenté 2 fois plus vite quasiment que l'inflation. Mais là, on voit bien que les vacanciers commencent à dire, bon, ça suffit, la hausse des prix. Et du coup, on voit des voyagistes, des tours opérateurs, des hôtels, des clubs de vacances, eh ben, qui, face finalement à une espèce de dessoufflement des réservations, commencent à s'inquiéter et commencent à proposer de belles promos pour attirer les clients. Alors, ça commence avec les compagnies aériennes. Vous avez EasyJet qui propose des billets à 15% de réduction sur une sélection de vols pour cet été. Pareil chez Ryanair. Air France fait aussi des efforts pour proposer, par exemple, l'Amérique du Nord à moins de 500 euros, l'Europe à moins de 150 euros. Puis après, il y a tous les clubs de vacances. Alors là, vous pouvez y aller. J'ai pris l'exemple de Bellambra, par exemple, hein, des réductions de 20% jusqu'à 50% pour votre deuxième semaine, par exemple, de vacances cet été. Et on peut facilement trouver des voyages à moins 40% en France, moins 30% à l'étranger. Même en 2019, avant le Covid, on n'avait pas autant, finalement, de bonnes affaires en perspective à ce moment-là de l'année.
Ça donne envie, en tout cas, toutes ces nouvelles. Les promos, Manu, c'est aussi pour attirer vers des destinations délaissé pour d'autres raisons que les prix.
Oui, il n'y a pas que la hausse des prix qui explique finalement la baisse des réservations. Alors, les élections, c'est très mauvais, hein, parce que comme quand vous savez pas à quelle sauce vous allez être mangé sur le plan notamment des impôts, etc., bah vous hésitez. Il y a la géopolitique qui joue, hein, et il y a des destinations, par exemple, qui sont des destinations qui sont très bon marché déjà. On pense à la Tunisie, au Maroc, à l'Égypte, qui ne font pas le plein. Donc là, vous avez des grosses promotions, par exemple, pour le mois de juillet et le mois d'août sur le Maghreb. Et puis il y a la météo, et là la météo, par exemple, bah, les campeurs, ils ont pas tellement envie en ce moment de réserver, et donc c'est de l'attentisme qui prévaut, et donc du coup, eh ben vous avez les campings aussi qui commencent à faire des belles promotions pour attirer le chaland.
Peut-être que ça va changer cette semaine.
Allez voir sur tous les sites de comparaison de prix de séjour, etc. Vous allez voir, ça vous coûtera peut-être moins cher quand même qu'en 2023.
Et si vous n'avez pas encore réservé vos vacances, vous pouvez retrouver évidemment les bons conseils de Manu Le Chip, la chronique, sur l'appli RMC en podcast.
RMC, Charles Matin,
Êtes-vous bien réveillé ?
Bonjour François.
Bonjour.
Comment ça va ce matin ? Vous nous appelez de Toulon ?
Oui, impeccable, il fait beau, la vie est belle.
Et oui, ça fait plaisir. Forcément, félicitations François, vous avez été tiré au sort pour jouer avec nous. Maintenant, il faut gagner, il faut répondre à la question que va vous poser Géraldine.
Quelle épreuve du bac commence aujourd'hui pour les lycéens, François ?
Le grand oral.
Le grand oral, bravo, effectivement, c'est bien ça. Le grand oral donc pour tous les candidats bacheliers qui débutent aujourd'hui jusqu'au 3 juillet. Félicitations François, vous repartez avec un joli cadeau.
Eh ben oui, le grand oral. Pardon François, c'est gagné pour vous. Vous repartez avec votre radio réveil de la marque Muse pour vous réveiller tous les matins avec RMC.
Voilà, bravo François.
Merci au top.
Bon, et puis bonne journée, bon courage pour la journée du côté de Toulon.
Ouais. Ça va aller.
On fait un débat. Je vois que vous êtes fonctionnaire, François. On fait un débat sur cet appel à la désobéissance lancé par certains cadres de l'éducation nationale. C'est une bonne ou une mauvaise idée en cas de victoire du Rassemblement national aux élections ?
Ouais, je dirais une mauvaise idée parce que la conséquence, je pense, c'est les élèves qui vont le subir. Et puis, l'État dont est l'éducation nationale, on va pas rajouter une couche à des grèves. Ça va être à la rentrée en septembre. Donc, je pense que c'est néfaste pour. Surtout pour les élèves.
L'avis de François, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On continue le débat ce matin sur RMC avec vous. Charles, bonjour.
Bravo François, salut Martin, Géraldine. Salut Manu. Et oui, on va poursuivre ce débat. Que pensez-vous de ces appels là qui se multiplient à désobéir? Ça vient dans la fonction publique, du côté de l'éducation nationale. On pense aussi aux magistrats. On avait aussi des tribunes de médecins, des cadres, des militaires, des diplomates. Est-ce que vous comprenez ces agents de l'État qui annoncent déjà qu'ils comptent désobéir, entrer en résistance contre un gouvernement qui ne leur conviendrait pas, un gouvernement dirigé par le Rassemblement national? Vous êtes fonctionnaires, profs, militaires, policiers, agents de la fonction publique. Venez nous dire ce matin, racontez-nous tiens, ce qui se dit aussi entre collègues à la machine à café, quel est l'état d'esprit. Est-ce que vous comprenez ces agents, ces fonctionnaires qui refuseraient d'envisager, d'appliquer les consignes d'un gouvernement RN? On va avoir ce débat avec vous au 32-16 ce matin. Tout à l'heure, on sera aussi à 7h10 avec le principal d'un collège qui a lancé justement cet appel à la désobéissance. N'hésitez pas à venir réagir dès maintenant au 32-16. Et puis, on est à 6 jours maintenant du premier tour. La campagne des législatives dans sa dernière ligne droite, on l'a dit tous ensemble sur RMC. Et justement, quelles sont les forces en présence ce matin? Où en est-on? Bernard Sananès de l'Institut ELAB viendra décrypter son dernier sondage. Il sera dans ce studio à 7h40. Les dernières tendances, ça se passe ce matin sur RMC. Il est 6h25. Je vous annonce une bonne nouvelle, il fait beau. C'est Géraldine qui a la bonne nouvelle du jour. On en parle dans un instant, c'est la météo et le journal de 6h30. C'est tout de suite sur RMC, c'est parti pour Apolline Matin.